Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on bascule dans un autre univers. L'histoire de J.K. Rowling et de son héros Harry Potter. Bonsoir Edwige Pasquet.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes la présidente de Gallimard Jeunesse. Ça fait combien d'années d'histoire d'amour, si j'ose dire, avec ce sorcier chez Gallimard?
Écoutez, ça va bientôt faire 20 ans, puisque le premier ouvrage a été publié en 97 en langue anglaise et en 98 en langue française. Donc nous préparons les 20 ans.
Et ce sera un bel anniversaire?
Certainement, parce que c'est un ouvrage, un auteur qui a vraiment marqué une génération.
Pour pas dire plusieurs, c'est ce que j'allais vous dire, parce que je suis en plein dedans. Moi, j'ai lu les 7 tomes, les précédents, et c'est un vrai bonheur de redécouvrir Harry Potter. Alors, on va vous dire dans quel contexte c'est un peu particulier. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer.
RTL.
Tu es un sorcier, Harry.
Je suis à quoi?
Jusqu'à 22h.
Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos condisciples.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'événement de la saison en littérature jeunesse, la sortie du nouveau Harry Potter. Que raconte ce livre? Quelle est l'histoire de son auteur J.K. Rowling? C'est ce que l'on vous raconte tout de suite dans la curiosité avec Edwige Pasquet. Je rappelle que vous êtes présidente de Gallimard Jeunesse. Ce nouveau Harry Potter, c'est une pièce de théâtre co-écrite, c'est ça, par J.K. Rowling? C'est
pas la seule auteure. Effectivement, elle a été conçue par J.K. Rowling, qui a travaillé avec un dramaturge, Jack Thorne, et un metteur en scène, John Tiffany. Et ils ont fait à trois une équipe tout à fait extraordinaire, parce que la pièce est une grande réussite.
Vous l'avez vue?
Je l'ai vue, j'ai eu cette chance.
Elle se joue à Londres, c'est ça?
Elle se joue à Londres depuis le 31 juillet et à bureau fermé, à guichet fermé, jusqu'au 31 décembre 2017. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que cette pièce réussit, J.K. Rowling réussit à nouveau à nous étonner, et cette fois-ci avec une pièce de théâtre.
C'est quoi l'intrigue?
Alors, l'intrigue, nous retrouvons. Ce qui s'est passé, c'est que dans le dernier Harry Potter, le 7e volume, vous aviez un épilogue qui présentait Harry Potter, sa femme Jenny, évidemment Ron et Hermione, avec leurs enfants. Et où étaient-ils? Sur le Kenneth 3 quarts. Et que faisaient-ils? Ils s'apprêtaient à partir à Poudlard, les deux enfants d'Harry Potter.
Voilà. Donc dans cette pièce de théâtre, le personnage principal, c'est...
Alors, vous avez...
On retrouve Harry Potter, forcément.
Harry Potter, bien sûr,
mais
avec
papa,
son fils.
C'est ça qui est drôle. Papa,
c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça se passe 19 ans plus tard. Harry Potter a 35 ans, il travaille au ministère de la Magie, c'est un...
Ou fonctionnaire,
un grand personnage. Tout à fait. Et il y a son fils, qui est un des personnages importants de cette pièce de théâtre, Albus Severus, qui est son fils cadet.
Alors là, on parle d'une pièce de théâtre qu'on peut lire, donc, et non pas un roman. Est-ce que ça peut freiner l'enthousiasme des jeunes lecteurs, lire du théâtre?
Alors, écoutez, c'est une question que nous sommes tous posés, évidemment. Mais quand nous voyons... À ce jour, les résultats, je peux vous dire que non.
C'est-à-dire les résultats de vente
Les résultats de vente qui dépassent tout à fait ce à quoi nous attendions. Et pas que en France, c'est la même chose dans tous les pays du monde entier où ça a déjà été lancé.
Parce que J.K. Rowling, elle a ce talent elle avait déjà fait redécouvrir la lecture.
Absolument.
Ou découvrir la lecture aux enfants, aux ados. Elle a ce talent d'arriver à faire lire du théâtre et d'émerveiller avec du théâtre.
Absolument. Ce qu'elle a réussi à faire là, c'est de faire les lecteurs retrouvent l'univers d'Harry Potter, et dans une pièce de théâtre qui est très fluide, si vous voulez, quand vous lisez les dialogues, c'est très facile, et les didascalies qui présentent effectivement les différentes scènes ne sont pas un obstacle à la lecture de cette pièce.
Oui, c'est des indications de jeu, des indications de lieu,
c'est
des repères.
Au fur et à mesure, les repères entre les scènes, tout à fait. Si vous voulez, ces dialogues entraînent tout à fait les lecteurs dans le monde d'Harry Potter.
C'est vrai, et quand on aime les romans de J.K. Rowling et l'univers d'Harry Potter, on le retrouve immédiatement, et la très bonne idée, c'est d'avoir un Harry Potter papa confronté, je ne vais pas en dire plus, à un ado rebelle. Et ça, franchement, je trouve ça assez savoureux pour le lecteur que je suis. Je suis en plein dedans, je n'ai pas encore terminé. Il ne faut pas me raconter la fin, surtout
c'est
pas.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on retrouve... Non, ça, je m'en garderai bien. c'est qu'on retrouve facilement tous les grands thèmes que J.K. Rowling a utilisé dans ses ouvrages, à savoir l'amitié, la famille, la régression aussi, effectivement, le savoir, enfin, j'allais dire tout ce qui a fait Harry Potter est là. mais à une génération suivante.
Edwige Pasquet, la maison Gallimard a eu du nez en 97 en achetant les droits du premier Harry Potter. Est-ce qu'à l'époque, là on va se projeter donc près de 20 ans en arrière, est-ce que quand vous l'achetez, quand Gallimard l'achète, c'est déjà un succès en Angleterre?
Mais non, puisque cet ouvrage a été acheté sur manuscrit, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est que notre éditrice Christine Baker, qui était à Londres, enfin qui est toujours à Londres, a rencontré l'éditeur qui venait d'acheter Harry Potter, et c'est assez extraordinaire parce que c'était un éditeur dans une petite maison d'édition Bloomsbury qui ne publiait pas de livres pour la jeunesse. Donc elle a rencontré cet éditeur qui lui a parlé de cet ouvrage, elle l'a lu et nous avons tous été convaincus qu'effectivement il fallait le publier.
Et ce premier volume de J.K. Rowling, des aventures d'Harry Potter, va marcher tout de suite en France ?
Non. Alors c'était le bouche à oreille d'abord. Ouais. Il y a eu deux phénomènes extraordinaires, c'est qu'il a été publié en poche et pas en grand format. Et surtout, c'était le bouche à oreille pendant 3 volumes. Mais le bouche à oreille fonctionnait.
Donc
et tout d'un coup.
Plusieurs années.
Sur 18 mois à peu près. Mmh. Parce que les 3 premiers volumes ont été publiés en 18 mois, 2 ans. Mais au-delà des enfants qui se passionnaient, il y a eu les parents qui se sont dit: mais tiens, je ne comprends pas pourquoi mes enfants dévorent des ouvrages comme ça.
Vous racontez mon histoire, moi. J'avais mon fils qui est tout pitchoun, qui a appris à lire quasiment avec Harry Potter. Et je lisais le roman après lui.
Exactement. Et ils se sont laissés prendre.
Mais oui,
absolument.
Et ça marche donc encore aujourd'hui sur toutes les générations.
Absolument.
C'est-à-dire que les libraires ont mis en place des nuits Harry Potter pour la sortie du livre.
Et
qui vient l'acheter, quoi?
Écoutez, vous avez déjà toute la génération des jeunes qui ont grandi avec Harry Potter.
Ah,
parce
que
la caractéristique d'Harry Potter, c'est chaque année, il a pris une année, donc de 11 ans à 17
c'est
ans.
Vrai.
Donc vous avez tous ces jeunes qui avaient à l'époque une quinzaine d'années, qui aujourd'hui continuent à être femmes et attendent cet ouvrage. Et puis moi-même, j'ai vécu quelque chose en librairie, c'est-à-dire j'étais très agréablement surprise. Pour vous illustrer ça, c'est que à côté d'une maman et de son fils qui achetait un ouvrage, je dis au fils: bon, bah, écoute, tu viens acheter Harry Potter. Ah, pas du tout, c'est pour maman.
Ah, c'est génial.
C'est mignon.
Voilà.
Edwige Pasquet, on va raconter la vie de J.K. Rowling, mais d'abord, il faut quand même décrire ce phénomène pour la littérature jeunesse. 1997, c'est vraiment l'an 1 d'une nouvelle ère.
Tout à fait. Surtout en France, où la tradition était de publier les ouvrages au format de poche pour les enfants. Donc il y a eu deux choses extraordinaires. La première, enfin j'allais dire même 3. La première, c'est que il y a J.K. Rowling, mais il y a aussi eu un autre auteur, Philippe Pullman, avec La Croisée des Mondes, qui, à cette époque-là, ont été publiés dans les premiers ouvrages au grand format. Rowling, c'est arrivé au bout du quatrième en l'an 2000. Et donc, le grand format aujourd'hui est quelque chose de totalement naturel. Le grand format, comme les ouvrages pour adultes, la première édition pour les adultes, c'est quelque chose de naturel pour la jeunesse aujourd'hui. À l'époque, ça n'était pas du tout. Deuxième chose, il y avait un certain nombre de croyances, si vous voulez, qui consistaient à dire que d'abord, les pavés pour les enfants n'était pas quelque chose que les enfants pouvaient lire. Là, vous avez des ouvrages qui ont entre 800 et 1000 pages dans certains cas. Et ils ont dévoré sans aucun problème. Et enfin, que les enfants ne pouvaient pas rentrer facilement dans des mondes complexes. Je crois qu'il n'y a pas plus complexe qu'Harry Potter. Mais si vous voulez, nous parlons tout à l'heure, nous évoquions les jeunes qui ont aimé lire et elle a fait lire. Ce qu'on dit moins, c'est qu'elle a fait écrire. Et vous avez tout un certain nombre d'auteurs et d'écrivains qui ont écrit et qui ont écrit une littérature pour adolescents.
C'est-à-dire qui dédaignaient ce genre avant et qui s'y sont mis ou...
Alors, sans forcément le dédaigner, c'était un genre qui n'existait pas. Vous aviez, on passait, la tendance était de passer de la littérature pour enfants à la littérature pour adultes. Et là, il y a vraiment eu une littérature pour les adolescents et les jeunes adultes qui a été créée.
Par exemple, l'auteur d'Hunger Games et ce genre de série pour adolescents, est-ce que c'est J.K. Rowling qui a pu les inspirer? Mais,
effectivement, et que si on prend en France, par exemple, vous avez des auteurs comme Timothée de Fombelle, comme Christelle Labosse, comme Éric Lhomme, qui ont donné envie d'écrire et qui ont donné envie d'écrire pour les adolescents. Voilà.
Harry Potter, c'est un succès évidemment mondial qui fait de J.K. Rowling l'écrivain le mieux payé sur la planète. Combien a-t-elle gagné depuis un an? Tiens, réponse dans une minute sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Fantastique. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité.
RTL. Aucun tour de magie ne doit être fait dans les couloirs entre les cours.
Petrificus, Totalus.
Jusqu'à 22h.
Sache une chose, Harry, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous gentils.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité de découvrir l'univers magique d'Harry Potter et de son auteur J.K. Rowling à l'occasion de l'apparition de Harry Potter et l'enfant maudit, c'est le texte de la pièce de théâtre jouée à Londres depuis cet été. C'est complet jusqu'en décembre 2017, mais il y aura d'autres spectacles, d'autres places, on imagine, puis on espère ça venir en France aussi. On ira avec plaisir. C'est Edwige Pasquet, la présidente de Gallimard Jeunesse, qui nous raconte la saga Potter. Alors vous avez forcément remarqué que vous portez le prénom de la chouette de Harry et que vos initiales c'est HP comme Harry Potter.
Je n'y suis pour rien, il faut bien un peu de magie de temps en temps.
Alors, vous étiez destiné à éditer ce livre, c'est pas possible.
Écoutez, y a effectivement comme ça des coïncidences qui se tombent bien.
L'univers de J.K. Rowling aujourd'hui, c'est combien de livres?
Alors en France, en langue française, je dirais, c'est plus de 28 millions et demi d'ouvrages
qui ont été vendus
dans le monde, absolument. Et dans le monde entier, il y a 80 langues en plus de 450 millions d'exemplaires.
Et c'est impressionnant.
Combien de films?
Alors, il y a
tous été adaptés.
Absolument, il y a eu 8 films qui ont été adaptés des 7 romans, puisque le dernier a été adapté en 2 films. Et puis, bientôt, vous avez quelque chose qui arrive.
Alors, ce prochain film, effectivement, vous me tendez la perche. Merci beaucoup, Edwige Pasquet. Il est attendu le 16 novembre. Ça s'appelle Les Animaux Fantastiques.
Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York?
Oui. Où est cet homme à présent?
Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique? Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage.
Au quoi?
Au nom magique, les non-sorciers.
On les appelle les moldus.
Les sorcières sont parmi nous.
Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Je vous le demande à tous. Qui cela protège-t-il? Nous.
Les Animaux Fantastiques, film RTL qui sort le 16 novembre. Edwige Pasquet, on l'a entendu dans l'univers de Harry Potter, les moldus sont là. Qui est le héros?
Absolument. Alors, le héros est un certain Norbert Dragono, qui est un magizoologiste, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des créatures fantastiques, des animaux fantastiques.
Qu'est-ce qui relie ces animaux fantastiques à Harry Potter, en fait? Est-ce qu'ils sont apparus dans certains des romans de la saga?
Il y a certaines créatures qui existent dans Harry Potter, et en fait, cette histoire-là se passe 70 ans avant Harry Potter.
D'accord,
c'est génial.
Très bien.
Tout à fait.
Est-ce que J.K. Rowling cherche à se détacher du héros qui a fait son succès d'Harry Potter?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle cherche à se détacher, parce que si vous voulez, elle est habitée par ce monde. Et même si elle y a mis une fin à la fin du roman, puisque c'était la fin d'Harry Potter, et qu'elle continue par une pièce de théâtre avec les enfants, c'est un petit peu différent. Là, je crois que c'est l'univers d'Harry Potter qui l'a complètement habité, qui continue, parce que qu'est-ce qui va se passer? Norbert Dragono entame un tour du monde pour aller créer un bestiaire fantastique. Et malheureusement, à New York, il se passe ce qui ne devait pas se passer dans sa valise. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais
la bande-annonce est très bien faite. Hein, elle donne vraiment envie de voir le film.
Voilà, se passe à
New York. Vous parlez de l'univers de J.K. Rowling dans lequel elle vit, elle baigne, cette sorte de cosmogonie. D'ailleurs, toutes ses créations, ses nouveautés sont estampillées J.K. Rowling's Amazing World, le monde magique de J.K. Rowling. C'est la promesse qu'on aura.
Le monde des sorciers, tout à fait.
C'est la promesse qu'on aura. Baignera peut-être.
Reste dans cet univers.
Voilà, qu'on reste dans cet univers. Il y a aussi des parcs d'attractions Harry Potter. Où est-ce qu'ils sont situés?
Alors, il y en a aux États-Unis, puisque vous avez Los Angeles et Orlando, et puis vous en avez un au Japon aussi.
Ah, parce que les Japonais sont fans de J.K. Rowling également.
Absolument.
C'est quoi les pays où on vend le plus?
Ça dépasse largement les Japonais.
C'est quoi le pays où on vend le plus de Harry Potter? Écoutez, la France est pas mal placée, je crois. Mais
la France est très bien placée, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui, dont les habitants sont plus nombreux que les nôtres.
Ah oui,
par exemple, alors je ne parle pas de la langue anglaise, qui est première, mais après vous avez le Japon, dans lequel vous avez beaucoup d'habitants, et vous avez l'Allemagne et la France, mais proportionnellement, en France, nous faisons partie du peloton de tête.
Alors on va parler un petit peu d'argent, même si c'est toujours difficile en France. Je l'ai annoncé tout à l'heure, J.K. Rowling.
Parce qu'on gagne pas d'argent en France.
C'est l'écrivain le mieux payé au monde. Est-ce que vous savez, vous, combien elle gagne par an?
Mais écoutez, j'aurais du mal à le compter. Ça, je dois dire que non.
Vous avez essayé?
Non, j'essayerai même pas. Parce que c'est vrai que il y a aujourd'hui beaucoup de choses dans l'univers d'Harry Potter, si vous voulez, entre les films, les livres,
les produits dérivés.
De développement, tout à fait. C'est difficile d'estimer. Voilà.
Alors, Laurent Marsic, c'est essayer au jeu de l'estimation. Je me souviens de l'avoir entendu dans Laissez-vous tenter un matin avec Yves Calvi. Il disait que de septembre à septembre, donc septembre 2015 à septembre 2016, J.K. Rowling avait gagné 96 millions d'euros en un an et que le business Harry Potter, c'était plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards de dollars, ça vous semble cohérent ?
C'est possible, tout à fait. Autant je ne me prononcerai pas sur le gain d'une année, autant sur la valeur de la marque Harry Potter, oui, effectivement, il y a eu des chiffres qui ont été énoncés, tout à fait.
Alors, Laurent Marsic, à l'occasion de ce papier dans Laissez-vous tenter, il a rencontré quelqu'un de très important qui s'appelle Jean-François Ménard. C'est le traducteur des livres. Il nous explique pourquoi J.K. Rowling ne peut pas quitter Harry Potter.
Je ne sais pas s'il arrêtera un jour, mais en tout cas, il était assez normal, étant donné la fin du septième volume, quand on fait un épilogue qui se passe 19 ans plus tard avec des personnages qui déjà existent tellement bien, on se dit il y aura une suite. Quand on crée un tel univers, celui de Harry Potter, je ne pense pas qu'on puisse l'oublier si facilement. Il est forcément présent, il est forcément là, et on a envie de temps en temps de continuer.
Jean-François Ménard, le traducteur de tous les Harry Potter, on va vous expliquer pourquoi il est lui aussi important dans le succès français de la saga. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter.
La curiosité est un vilain défaut.
Et pour Harry Potter et ses amis,
bienvenue à la maison.
C'est le début d'une nouvelle aventure.
Jusqu'à 22h.
Aujourd'hui, quelque chose menace les élèves à Poudlard.
Des secrets a bel et bien été ouverte.
Des choses terribles vont se passer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Harry Potter et l'enfant maudit, c'est une pièce de théâtre et c'est un événement littéraire, comme tous les livres signés J.K. Rowling. Et pour nous raconter ce phénomène, Edwige Pasquet, la présidente de Gallimard Jeunesse, heureuse éditrice de la saga. On entendait juste avant le disque de Kate Bush, le traducteur des romans de J.K. Rowling, expliquer pourquoi, et on le comprend et on la comprend, elle avait du mal à se détacher du personnage de Harry Potter. Elle a créé un univers, mais ce traducteur lui aussi a joué un rôle dans le succès. Pourquoi ?
Absolument, parce que d'abord, il a respecté ce monde de Rowling, qui est tout à fait étonnant. Mmh. Et puis, vous avez lu Harry Potter, vous avez dû remarquer qu'elle a un certain nombre d'influences, que ce soit des influences de légendes nordiques, mmh, de religion, de la mythologie. Mmh. Et elle a une passion, c'est de travailler sur les mots. Donc, elle a toujours recherché, donné, nommé de manière assez extraordinaire avec différentes influences. Et le traducteur a réussi à lui-même, il s'est passionné pour ces mots, il était entouré de dictionnaires du 16e siècle, d'un certain nombre d'encyclopédies, d'un certain nombre de choses, et il a retrouvé la signification des mots qu'il a essayé de traduire en français pour faire comprendre. Je prendrais ne serait-ce que, par exemple, Poudlard.
L'école.
En anglais, c'est Hogwarts, c'est verrue de porc, et il a nommé ça Poudlard. Voilà.
C'est bien trouvé.
Parce que c'est pas évident, on imagine qu'un traducteur qui travaille super mal, J.K. Rowling, tout doué soit-il, ne jamais marcher en France.
Il faut, si vous voulez, il faut apporter toute cette finesse et tout ce monde d'Harry Potter et le faire vivre en français. C'est tout un exploit.
Et ce qui est génial, c'est qu'il a été séduit par l'histoire, donc ça veut dire la force de cette histoire qui envoûte les grands et les petits.
Absolument.
Et c'est Jean-François Ménard qui a traduit tous les romans.
Absolument l'ensemble, ouais. Même le huitième là.
Vous êtes resté fidèle à ce traducteur.
Si on racontait, ouais. Allez. Mais moi j'ai envie de savoir d'où elle vient cette J.K. Rowling, cette femme extraordinaire avec des idées et une cosmogonie incroyable. Elle est née en 1965. Elle naît dans quel milieu ?
Alors, elle est née dans un milieu petit bourgeois. Elle est née à Bristol. Mm-hmm. Et là, elle est née dans un... Ses parents aimaient beaucoup les livres. Notamment, sa maman était une passionnée de lecture. Elle a été une élève très brillante. Et elle a elle-même avoué que c'était Hermione. Elle disait effectivement, je suis, avec toutes ces difficultés d'être une élève brillante qui n'était pas toujours accueillie comme elle l'aurait voulu par les autres.
Voilà. Alors elle s'appelle J.K. Rowling. J, c'est pour Joanne, c'est ça ?
Oui.
Et le K,
c'est pour sa grand-mère. C'était le prénom de sa grand-mère, Kathleen. Parce qu'elle était très attachée à sa famille. Et on retrouve d'ailleurs ses grands-parents, il y avait. Ses grands-parents, je crois, maternels, étaient épiciers. Et on retrouve dans Harry Potter toute cette influence qui peut exister. Que ça soit aussi. À l'école, on retrouve l'influence de nombreux enseignants qu'elle a pu avoir.
C'est vrai qu'elle a passé une année à Paris pendant ses études universitaires ?
Absolument. Elle est venue à Paris pour enseigner l'anglais. Exactement.
Et donc, elle parle français ?
Elle parle français.
Vous l'avez rencontrée ?
Je l'ai rencontrée lorsqu'elle a reçu la Légion d'honneur, effectivement, d'Emmanuel Nicolas Sarkozy à l'Élysée.
On l'écoute ?
La Légion d'honneur a des connotations toutes particulières et très personnelles pour moi. En effet, mon arrière-grand-père était français. Il s'appelait Louis Volant et il a été décoré de la Légion d'honneur en 1924 pour son courage lors de la bataille de Verdun.
J.K. Rowling qui raconte l'histoire de son arrière-grand-père héros de Verdun. Elle vous avait parlé de ses racines françaises ?
Alors, elle y est très attachée, si vous voulez. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles elle a choisi de venir en France passer un an. Et quand vous l'écoutez en français, elle parle bien.
Elle parle très bien.
Elle parle très bien, exactement. Avec un certain nombre de nuances, avec un certain nombre de... Ouais. Elle fait beaucoup d'efforts, si vous voulez, pour bien parler français.
Mais elle a même été prof de français, je crois.
Elle a aussi été...
Dans ces années un peu de vache maigre, c'est ça ?
Absolument. Mais ça, c'était en Angleterre. Elle était prof de français en Angleterre. En France, elle était prof d'anglais.
Quelle personne c'est, J.K. Rowling ? Elle est plutôt timide ou plutôt à l'aise, exubérante ?
Non, c'est une personne qui est discrète, qui se protège beaucoup. D'une part, pour pouvoir vivre sa vie de famille comme elle souhaite la vivre. Et puis, pour pouvoir continuer à écrire et à travailler sur son œuvre et sur ce qu'elle souhaite développer. Donc, c'est quelqu'un qui se protège énormément.
Alors justement, sa vie de famille, on est au début des années 90, J.K. Rowling a une trentaine d'années, elle part vivre au Portugal. Pourquoi elle s'installe là-bas ?
Parce qu'elle avait apprécié cette année qu'elle avait passée en France, et je crois que c'était après la mort de sa maman. Mm-hmm. Donc elle s'est dit, ok, je quitte l'Angleterre momentanément, et elle a choisi le Portugal.
Elle y fait une rencontre importante ?
Très importante, puisqu'elle y rencontre un journaliste qui deviendra son mari. Et qui est aussi le père de sa petite fille.
Est-ce que c'est là qu'elle commence à écrire Harry Potter, au Portugal ?
Alors, elle commence à être habitée par ce monde. Ce monde l'habitait déjà un petit peu avant. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours eu la nécessité d'écrire. Mais après, elle s'est séparée de son mari et elle est repartie en Écosse, à Édimbourg, où vivait sa sœur. Et c'est là qu'elle s'est mise à rédiger Harry Potter.
Ce sont des années de vache maigre à l'instant, c'est vraiment ça ?
Oui.
Elle vit de quoi à cette époque ?
Oui, parce que quand elle est rentrée du Portugal, elle était seule avec sa petite fille.
Avec sa fille élevée, oui. Elle vit des allocations, j'ai lu ça, c'est vrai ?
Oui, parce qu'elle a fait un pari qui n'était pas facile, si vous voulez. Plutôt que de retravailler ou de refaire des études ou de prendre un job, elle a décidé d'écrire. Donc effectivement, elle n'avait pas beaucoup de revenus. Mais elle a eu raison, c'est pas qu'on puisse dire.
Elle a eu raison de persévérer. Oui.
En fait, elle va écrire le premier volume d'Harry Potter et puis elle va l'envoyer aux éditeurs, ou J.K. Rowling va carrément écrire la saga ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait le plan de la saga d'Harry Potter en tête, mais il a fallu qu'elle écrive les volumes les uns après les autres. Donc elle a écrit les premiers volumes, elle les a envoyés à un agent, qui l'a refusé, elle a envoyé un éditeur qui l'a refusé, et finalement elle a fini par trouver un agent qui l'a accompagné dans cette recherche et qui est arrivé donc vers Bloomsbury. Tout à fait.
Et donc Bloomsbury Publishing, c'est pas une grande maison d'édition, ce que
c'était
vous
une petite maison d'édition qui publiait. C'était absolument qui publiait une vingtaine de titres pour adultes par an, qui a démarré un département jeunesse avec Harry Potter et qui maintenant est en bourse.
Ben voilà, c'est aussi une,
belle histoire.
Une autre partie de la belle histoire. Le premier tirage d'Harry Potter, d'après vous, combien d'exemplaires ? 1000 exemplaires seulement. C'est une édition originale qui est très recherchée. Aujourd'hui, on vous raconte cette partie de l'histoire dans un instant sur RTL.
Curiosité, indiscrétion, révélation. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Et on parle d'une plume magnifique, J.K. Rowling. C'est aujourd'hui l'écrivain le mieux payé au monde. Elle le doit évidemment au succès planétaire de son héros Harry Potter, dont les nouvelles aventures sous forme de pièces de théâtre sont publiées chez Gallimard. C'est la présidente de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet, qui nous raconte cette success story. Donc on est en juin 1997, on n'est pas si loin, que le premier tome d'Harry Potter paraît. Il n'est tiré qu'à 12 000 exemplaires, ce qui est quand même peu. par rapport au succès que ça va avoir.
Tirage, ce qui est un tirage à l'époque normal pour un inédit au format de poche. Voilà.
Donc ça veut dire que la maison d'édition y croyait, mais sans
absolument.
Non plus
mais
se raconter
l'histoire. Nous avons toujours cru, parce qu'à partir du moment où nous avons acquis cet ouvrage, c'est bien par conviction. C'est-à-dire ça, il n'y avait absolument aucun doute. Mais de là à imaginer ce qui allait se passer par la suite, ça, je défie qui que ce soit au monde de le faire.
Mais ça, 12 000, c'est le tirage Gallimard. Tout à l'heure, je parlais de 1000 exemplaires. C'est, je crois que c'était le tirage de, Bloomsbury. Mais vous,
sa maison
c'est vous qui
anglaise.
Connaissez, donc
oui,
je me suis peut-être bien trompé, parce que j'avais lu que ces exemplaires originaux en anglais valaient une fortune.
Alors,
aujourd'hui.
Effectivement, les premiers exemplaires ont pris de la valeur, ça c'est
bien
certain.
Sûr, ouais.
Mais
que ça pouvait se vendre jusqu'à 27 000 euros. Il y a eu une vente à 27 000 euros en 2005, donc ça doit être quand même relativement rare.
Possible,
on a possible. Raconté tout à l'heure comment Gallimard avait acheté les droits pour être le premier éditeur à publier le livre en dehors du Royaume-Uni. Le succès en France a été quand même assez rapide. 18 mois pour installer 3 premiers volumes de la saga Harry Potter. La France, c'est vraiment la terre de prédilection des fans d'Harry Potter ?
Alors, je pense que d'un côté, oui, mais pas que la France. Mais ceci dit, ce que je trouve vraiment très encourageant, d'abord, à chaque publication d'un ouvrage Harry Potter, c'est une grande fête du livre et de la lecture. Et là, effectivement, vous voyez des fans de toutes les générations.
Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais pour se rendre compte, vous l'avez édité à combien d'exemplaires, ce Harry Potter et l'Enfant Maudit ?
Alors aujourd'hui, le premier tirage a été de 600 000 exemplaires. Et compte tenu des
600 000 ?
600 000, absolument pour la France, tout à fait.
Si Denis Bonnec, qui sort un livre avec Marie Drucker, fait des grands yeux en se disant « Waouh, 600 000 !» Vous avez un tirage de combien ?
Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
Ah, ben je sais
mais
pas,
c'est
ouais.
Plutôt un bon tirage.
Bon, c'est bien. Il faut dire qu'il est super, le livre. C'est un très, très beau livre. Donc, 600 000 exemplaires, c'est énorme. Et vous avez déjà lancé le deuxième tirage ?
Oui, compte tenu de l'accueil, absolument. Mm. Et puis, nous mettons un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de rupture et être prêt à fournir autant qu'il le faudra.
Alors, ce succès, est-ce qu'il a... Vous avez un petit peu répondu à la question, mais quand même, est-ce qu'il a changé J.K. Rowling ? Forcément. C'est-à-dire,
oui.
Quand on gagne autant d'argent, quand
oui.
on a...
Oui, oui.
Elle a plus la
même vie. C'est un petit peu inévitable. Mais c'est quelqu'un qui est devenu un personnage public, quelque part. Puisque quand on voit que 450 millions de personnes ont lu son ouvrage, et qui, du coup, il lui arrive d'intervenir dans certaines occasions...
Dans le débat public.
Dans le débat public, absolument. Mmh. Et puis, c'est quelqu'un de très généreux, puisque notamment les droits d'auteur des Animaux Fantastiques que nous avions publiés, qui est un des ouvrages du Collège Poudlard, de la bibliothèque du Collège Poudlard, les droits sont donnés à une association qu'elle a montée, qui s'appelle Lumos, et s'occupe d'orphelinats. Elle a commencé en Roumanie et maintenant c'est dans le monde entier.
Oui, elle avait été choquée comme nous tous par les images de ces orphelinats en Roumanie où on voyait les enfants qui étaient enchaînés à leur lit dans des conditions d'hygiène déplorables.
Elle s'est engagée aussi politiquement, J.K. Rowling, parce que quand elle fait un don d'1 million d'euros au Parti travailliste en 2008, c'est un sacré engagement.
Absolument, absolument. Mais c'est quelqu'un, je crois, qui a des opinions, qui affirme ses opinions et elle est intervenue par exemple au moment du Brexit, est intervenue sur un certain nombre de sujets. Elle a fait un magnifique discours, par exemple, elle a été sollicitée pour la remise des diplômes d'Harvard aux États-Unis, dans lequel elle a fait un magnifique discours qui a un petit peu surpris. Je vais dire, c'était inattendu parce qu'elle parlait de l'échec. Vous voyez ça ?
La culture de l'échec. Voilà.
Voilà. C'est un conte de fées qu'on raconte quand même, le conte de fées de J.K. Rowling, une femme qui se retrouve seule avec sa fille, qui vit avec des allocs et qui devient l'une des femmes les plus riches au monde. On a envie de savoir aujourd'hui, elle a d'autres enfants, elle s'est remariée, elle vit dans un manoir.
Alors, elle s'est effectivement remariée, elle a eu 2 autres enfants depuis, et c'est la raison pour laquelle elle se protège, pour pouvoir se consacrer à sa vie familiale autant qu'elle le
souhaite. Est-ce qu'elle vit dans un manoir, dans un château ?
Je crois qu'elle vit dans une belle maison, voilà.
Bah oui, forcément, ça serait dommage de ne pas s'offrir une belle maison quand on réussit aussi bien. Ce qui est intéressant, on va terminer sur en revenant au thème de la pièce de théâtre, donc, qui est coécrite, je le rappelle, avec John Tiffany et Jack Thorne, qui est aussi le metteur en scène de la pièce qui se joue en ce moment à Londres. C'est que moi, je me dis que elle y met un peu de sa vie, forcément. Un parent face à des ados un peu rebelles, c'est ce qu'elle doit vivre en ce moment avec ses enfants.
Alors, écoutez, ça, ça n'est pas officialisé, j'allais dire, on n'imagine pas, mais peut-être que c'est aussi ce qu'elle a pu vivre. Je pense qu'il y a toute une partie autobiographique. Enfin, il y a une partie autobiographique.
Oui, parce que le fils de Potter, il vit mal la célébrité de son père dans le roman.
Il a du mal à vivre le poids de cet héritage, et c'est certain.
Et ça ne doit pas être facile non plus d'être l'enfant de J.K.
Mais il y a un certain nombre d'autres personnages. Il y a Malfoy, il y a aussi...
Scorpius Malfoy, le fils de Drago.
Absolument.
C'est joli pour un petit garçon, Scorpius.
C'est assez joli. Voilà.
Oui, ouais. Régulièrement, j'aime bien trouver des prénoms comme ça qui m'enchantent.
Oui, oui.
Bon, j'en suis à l'acte 1. Je vais vous laisser pour me replonger dans la suite de ce Harry Potter et l'enfant maudit. C'est donc une pièce de théâtre et c'est à lire aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup, Edwige Pasquet.
Merci de votre accueil.
Vous écoutez RTL.